Bienvenue pour notre grand débat de 2025, une année européenne de tous les dangers que doivent affronter des gouvernements souvent affaiblis à l'image de celui de l'Allemagne ou de la France. La nouvelle commission entrée en fonction s'est donnée 100 jours pour lancer des réformes décisives, mais ça commence très mal pour Ursula von der Leyen, très grippée. Et puis la présidence tournante de l'Union européenne revient à la Pologne de Donald Tusk.
Oui, et ce dernier a énoncé ses priorités, sécurité et défense européenne rehaussée, soutien indéfectible à l'Ukraine et un durcissement de la politique migratoire, surtout quand elle est utilisée comme arme hybride à la frontière Est par Vladimir Poutine. Alors cette présidence polonaise pro-européenne du premier semestre risque de souffrir en revanche des divisions des 27 et de la montée en puissance des ultranationalistes, voire pro-russes.
Alors pour nous accompagner puis surtout nous projeter dans l'avenir, finalement, nous avons trois invités aujourd'hui en notre compagnie. Alors nous sommes en duplex de Varsovie avec Karolina Borowska-Riniewska. Merci d'être bien avec nous. Vous êtes professeure de sciences politiques en Pologne et à l'Université de Paris 1.
Ainsi avec nous en plateau, Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, enseignant au Corps des Mines et à l'ESCP. Bonjour. Et Christophe Préau, directeur de la rédaction du Média en ligne de référence Toute l'Europe. Christophe Préau, on commence avec vous. Alors 2025, ça va être un bon cru ou il faut s'attendre à une année difficile pour l'Union européenne?
Un bon cru. Pour reprendre votre image, je dirais qu'il va falloir peut-être le laisser décanter un petit peu, ce cru carafé, je dirais, pour on sentir après toutes les saveurs et tous les arômes. Je pense que on pensait pas que ce serait une année européenne très sensible, parce qu'il n'y avait pas d'événements européens, mais finalement, l'actualité a toujours du talent. Donc, entre l'investiture de Donald Trump et on voit aujourd'hui le couple Trump-Musk très offensif vis-à-vis de l'Union européenne, je pense qu'on y viendra. Les élections anticipées aussi en Allemagne, des élections aussi en Pologne, plus aussi beaucoup d'actes législatifs qui vont devoir s'appliquer pendant cette année 2025, à commencer par tout ce qui concerne l'industrie. Je pense que c'est une année qui effectivement sera, je dirais, peut-être agitée et en tout cas assez sensible pour la Commission européenne. C'est l'installation aussi d'une nouvelle commission et d'un nouveau Parlement européen.
Alors, on vient de parler de la Pologne, Yves Bertoncini, parce que le 1er janvier, c'est en effet la Pologne de Donald Tusk qui prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Europe après une présidence très sulfureuse des Hongrois ? On s'en souvient.
Oui, c'est une bonne nouvelle. La présidence hongroise, elle était transitionnelle. Il y a eu des élections, il n'y avait pas beaucoup de dossiers législatifs à traiter. C'est une bonne nouvelle que la Pologne arrive, et avec Donald Tusk à sa tête. La Pologne, parce que c'est un grand pays de l'Union européenne, qui est de plus en plus central, compte tenu de l'actualité géopolitique, l'invasion russe de l'Ukraine, du fait que c'est un pays qui avait raison, d'ailleurs, vis-à-vis de Vladimir Poutine, à la différence des Allemands et des Français qui l'ont beaucoup courtisé. Et puis à la tête de la Pologne, Donald Tusk, qui est quand même l'ancien président du Conseil européen, qui a d'ailleurs déjà assuré une présidence tournante quand il était Premier ministre avant son départ à Bruxelles. Et donc un homme très expérimenté qui a pu délivrer un programme centré en effet sur la sécurité sous toutes ses formes, mais qui me semble assez bien adapté aux défis de l'heure pour les Européens.
Alors, on parle de la Pologne. C'est là que vous vivez, Karolina Borowska-Riniewska. Donald Tusk, on vient de le dire, est un pro-européen bien connu à Bruxelles, avec de l'expérience. Il affiche un agenda ambitieux pour la présidence polonaise, sur la sécurité, notamment des frontières. Est-ce que ces priorités sont réalistes ?
Dans ce contexte géopolitique très difficile dans lequel nous vivons actuellement, la sécurité est bien sûr prioritaire. Mais comme a souligné Pologne, s'agit d'un concept multidimensionnel, incluant non seulement la sécurité militaire, mais aussi l'économie, l'énergie, l'information et la démocratie. Et l'objectif polonais est principalement de progresser dans toutes ces dimensions. Et comme vous avez dit, la Pologne parle de certains réalismes, de la faire de manière réaliste. Et qu'est-ce que ça signifie? Seulement plusieurs exemples, deux ou trois exemples. Sur la défense européenne, la Pologne souligne chaque fois que les dépenses de défense des États membres doivent augmenter. Et la Pologne figure en tête des pays
avec
membres
de l'OTAN. Avec 4% de son PIB sur la défense européenne.
Le plus pour leur défense, c'est 4,1% de la PIB. Et Varsovie est donc, je pense, un partenaire véritable des États-Unis et de Donald Trump aussi, formellement. Je pense que Donald Trump aussi attend que l'Europe renforce sa propre effort dans manière de sécurité. Mais aussi, ce qui est important est que, contrairement à l'ancien gouvernement polonais, les nouvelles équipes polonaises rejettent cette fausse dichotomie ou contradiction entre collaboration dans la OTAN et renforcement de l'Union européenne en matière de sécurité. Parce que ces deux piliers sont très complémentaires et sont synergétiques, doivent être synergétiques.
Alors c'est vrai, Christophe Préau, que on l'a bien dit, hein, la Pologne consacre plus de 4% de son PIB, d'ailleurs Donald Trump demande presque 5%, ce qui est énorme. Est-ce qu'on va suivre finalement les Polonais sur cette idée d'augmenter nos dépenses et surtout sur un soutien sans faille avec l'Ukraine qu'ils organisent aussi avec les pays baltes et tout ça, alors qu'on voit bien que parmi les 27, certains traînent des pieds.
Alors, il y a des dissensions parmi les 27 hein, sur la question de la défense et de soutien aussi à l'Ukraine. Et on voit aussi, malgré tout, on va fêter le 24 février les 3 ans de la guerre en Ukraine. Donc le temps passe vite, mais aux frontières de l'Europe, il y a ce conflit qui déstructure complètement toutes les relations, les équilibres économiques et géopolitiques. Et on voit aussi aujourd'hui, même sur les fervents défenseurs de l'Ukraine aussi, quand même une motivation qui s'érode un petit peu. Et en plus, vous avez Donald Trump qui met quand même un petit peu la pression aussi sur les chefs d'État et de gouvernement à travers l'OTAN, en demandant demain plus d'investissements justement au sein de l'OTAN. Moi, je pense qu'effectivement, à la fois bâtir une défense européenne et investir dans l'industrie aussi de défense européenne et en même temps être aussi dans l'OTAN, ne sont pas deux projets antinomiques. Au contraire, ils sont, à mon avis, extrêmement, extrêmement complémentaires. Et aujourd'hui, on comprend la Pologne. Le slogan de la présidence polonaise, c'est « Sécurité Europe ». On comprend la Pologne, qui est l'État membre qui a la frontière la plus importante avec l'Ukraine et aussi avec la Biélorussie.
Alors, on ouvre un autre chapitre.
Voilà pour la
suite.
Pologne, donc, qui sera effectivement l'un des temps forts avec sa présidence de l'année 2025, mais il y a d'autres pays qui, eux, sont plus sur des temps faibles. Il y a plusieurs gouvernements en Europe, et non des moindres, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, la Belgique, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont, pour des raisons différentes, en crise politique. C'est difficile d'imaginer un leadership européen commun dans ces conditions sur cette année 2025, Yves Bertoncini.
Oui, parce que pour que l'Europe soit forte, il faut que ses États membres, ses composantes, soient forts eux aussi. Et on ne peut pas décider de manière légitime, efficace, si il y a une chaise vide ou qui chancelle à Berlin, et puis en France, une situation compliquée aussi, avec un président affaibli, et puis tous les autres pays dont vous avez parlé, qui sont dans des situations précaires politiquement. Donc, dans ce contexte, compte tenu de la pression géopolitique qui s'exerce sur nous, il va quand même falloir prendre des décisions, au-delà d'initiatives qui sont déjà lancées en matière de défense, d'industrie, et toute autre série que Mme von der Leyen a annoncée dans son programme. La Commission peut jouer un rôle important, parce que comme la nature politique a horreur du vide, normalement, c'est le rôle de la Commission, on l'a vu dans des époques précédentes, celle de Jacques Delors en particulier, mais lui-même, Jacques Delors, rappelait qu'il n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas eu à Madrid, à Berlin, à Paris et ailleurs, des leaders forts et qui sont capables d'engager du capital politique. Donc, sur la construction européenne, son approfondissement. Donc, c'est là qu'effectivement, il va falloir, en Allemagne, ça devrait arriver, retrouver un leadership fort. En France, stabiliser la situation ailleurs pour que l'Europe aille de l'avant.
Alors Carolina, d'ailleurs, en Allemagne, puisqu'on le mentionne, le 23 février, évidemment, toute l'Europe aura les yeux rivés sur Berlin avec des élections anticipées. Les chrétiens démocrates pourraient l'emporter. Le score de l'extrême droite porté par la désinformation russe et la désinformation trumpiste inquiète beaucoup l'Europe néanmoins.
Oui, bien, c'est très inquiétant. Et l'extrême droite a fait des énormes progrès ces dernières années. Dans plusieurs pays, et je pense que la France est un exemple, parce que le Rassemblement national de Le Pen a remporté le plus fort comme le parti politique aux élections de juillet 2024. Nous pouvons voir qu'il est un faiseur de roi dans la politique intérieure. Et la même peut passer avec l'Allemagne. Et dans ce contexte de stagnation économique et d'absence de leadership politique, un terrain s'ouvre pour l'extrémisme. Et c'est très inquiétant la façon dont les forces populistes utilisent la communication et la technologie, comme nous pouvons voir dans cette dialogue, la discussion live entre Elon Musk et la leader de AfD, Alternative für Deutschland, Alice Weidel.
Vous parlez de l'extrême droite en Allemagne. Il y a un autre pays, Christophe Prey, où l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir cette année, c'est l'Autriche, avec une volonté notamment de verrouiller les frontières qui est partagée par d'autres gouvernements nationalistes. On pense à la Hongrie, mais aussi pour d'autres raisons, par exemple pour la Pologne. Est-ce que les 27 vont risquer de remettre en cause, en cette année 2025, le pacte asile-immigration au profit de ce qu'on pourrait appeler une Europe forteresse?
Non. Pacte migration et asile, qui avait été adopté vraiment en dernière limite de la précédente mandature par les États membres le 14 mai 2024, me semble-t-il, et qui n'avait pas non plus été voté et adopté par tous les États membres. La Hongrie, la Pologne aussi, l'Autriche avait voté contre. C'est un texte qui comprend 9 règlements et une directive et qui doit être normalement appliqué en 2026. Il est évident que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la situation migratoire qui n'est pas gérée depuis, qui est en suspens depuis 10 ans, 2015 et la crise migratoire, et c'est toujours le petit caillou dans la chaussure de l'Union européenne. Et aujourd'hui, les États membres sont, même s'ils se sont entendus sur ce pacte asile et migration et asile, qui doit normalement renforcer les contrôles aux frontières, mieux gérer les migrations illégales et les conditions de retour aussi, et puis aussi une certaine solidarité entre États membres. La solidarité entre États membres, ce sujet-là, elle peut exploser, c'est évident.
Alors, on change de chapitre dans les fameux 100 jours de la nouvelle commission. Et Ursula von der Leyen a attrapé une très mauvaise grippe, semble-t-il, cette semaine, on s'en rend compte. Elle s'est donné 100 jours jusqu'à la mi-mars pour lancer de grandes réformes pour son second mandat, avec en premier lieu un pacte industrie propre. Est-ce qu'on est crédible sur notre volonté d'être là, de renforcer l'industrie ?
Je crois que Mme von der Leyen, qui, dans son premier mandat, avait mis le pacte vert européen comme première priorité, là, a décidé d'amender les choses, je dirais, en mettant un peu plus de souveraineté industrielle européenne dans son second mandat. Et c'est ça que veut dire le glissement de pacte vert européen à pacte pour l'industrie propre. Et donc, on est crédible, oui, en partie, puisqu'il y a déjà eu des initiatives qui ont été prises dans la précédente mandature pour essayer de faire en sorte que la transition écologique se fasse aussi avec des acteurs européens. Il y a eu, par exemple, des alliances industrielles. On parle souvent de l'Airbus des batteries, mais il y a eu d'autres alliances industrielles qui ont été lancées par les Européens.
Mais elle est un peu aux abandons absents, là, cette Ursula.
Alors là, il y a en ce moment, et c'est assez inquiétant d'ailleurs, une maladie, ça peut arriver, mais elle a mis quand même beaucoup de temps à désigner une vice-présidente intérimaire, et puis surtout, on n'a pas de nouvelles. Et c'est d'autant plus ennuyeux qu'elle a beaucoup centralisé le pouvoir au sein de la Commission européenne, ce qui peut être très largement contre-productif, déjà en général, parce que c'est un collège où il faut beaucoup d'intelligence collective, se consulter les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a 27 commissaires issus des 27 États membres. Et si de surcroît, elle tombe malade ou elle n'est pas capable de déléguer, à un moment où les pressions géopolitiques, y compris venant de notre protecteur traditionnel américain, se multiplient, c'est fâcheux. Alors on a entendu quand même Mme Callas, il y a aussi le président du Conseil européen stable, M. Costa, Donald Tusk, il y a quand même d'autres personnes pour porter la voix de l'Union européenne, mais c'est vrai que le quartier général, on le voit, c'est le berlaymont, Mme von der Leyen, on espère qu'elle va se rétablir et rapidement reprendre ses fonctions.
Effectivement, Christophe Prey, une forme de vacance du pouvoir qu'on espère temporaire, qui inquiète quelques jours avant la nomination de Donald Trump. On en a parlé en filigrane de cette émission, mais évidemment, cette prise de fonction du président américain, elle va beaucoup jouer sur les Européens cette année. Est-ce qu'on ne risque pas d'être plus dans la réaction à ce qu'il va faire que d'être proactif ?
Proactif, déjà, l'Union européenne, c'est déjà bien. Il y a déjà des groupes d'experts qui réfléchissent justement à différents scénarios en fonction de ce que demain, les orientations que pourrait donner Donald Trump, qu'il a déjà aussi indiqué sur les droits de douane.
Les droits de dessert, c'est bien, mais la volonté politique.
La volonté politique, je pense qu'elle va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle est un peu groggy, un peu comme un boxeur dans les cordes, parce que le jeu géopolitique, il a complètement changé. On s'inquiétait de Donald Trump, on se préoccupait de Donald Trump, et puis tout d'un coup, on voit aussi arriver Elon Musk, futur secrétaire d'État, qui, à travers les réseaux sociaux, à travers X, fait un dialogue en direct avec la leader de l'AFD, insulte carrément le chef du gouvernement du Royaume-Uni aujourd'hui. Donc je pense qu'on est aussi un petit peu perturbé par ces nouveaux éléments. On parle là d'un chef d'État, M. Trump, qui sera avec un pouvoir régalien, qui sera le président de la première puissance du monde, et puis aussi de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui est à la tête de SpaceX, de Starlink.
Alors justement, donc, pour conclure, on a 30 secondes pour conclure.
Aujourd'hui, ce champ est complètement
avec perturbé. Vous, Carolina, 30 secondes pour conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez en 2025 aux Européens?
Oui, well, je le souhaite à les Européens, à les leaders, et le changement de discours politique dans les côtés d'intellectuels progressistes pro-européens, parce que nous perdons la bataille à le cœur, à l'esprit de la gens, parce que les populistes utilisant mensonges, émotions, sont très clairs, très généralistes, mais très, très forts. Et nous devons faire la même chose, seulement avec tous les pouvoirs que l'Union européenne apportait à la gens. Et je pense que c'est très important à introduire à niveau européen l'éducation civique européenne, parce que grâce à ça, nous serons prêts à battre, d'éliminer la désinformation, parce que ça, c'est très important, menace hybride maintenant, de Russie, des États-Unis, toutes les directions.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir très bien illustré les grands enjeux et les très grands défis de cette année 2025, on l'a compris.
Merci Caroline et très bonne année à vous tous. Bonne suite de programme sur nos antennes.